On s'en va rejoindre au bout du fil quelqu'un qui a tenté d'être parfaite au cours des derniers mois, Rosemée Autanté-Morin. Bonjour, comment vas-tu?
Je vais très bien, merci beaucoup.
Belle série sur Véro TV, sur le Tout TV Extra. D'abord, comment est arrivée l'idée de cette série-là? Comment devenir une personne parfaite?
Ben, en fait, je suis assez obsédée par les enjeux de société qui me touchent tous et toutes. Et un jour, je suis tombée sur un article publié par des chercheurs de l'Université Dalhousie qui disait que les jeunes adultes n'ont jamais été soumis à une telle pression de perfection. Puis donc, on abordait notre perfectionnisme générationnel en prévoyant qu'on ne parle pas ici là, d'une belle qualité. Là, c'est comme on dit en entrevue pour une nouvelle job. Là, moi, je suis perfectionniste.
Oh oui.
Mais plutôt comme un trouble, vraiment, qui fait qu'on est obsédé par l'idée de paraître parfait. Puis ça, évidemment, ça a un impact sur notre santé mentale, sur notre performance, sur notre humeur. Puis, je me suis reconnue et je me suis dit, c'est intéressant, tu sais, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Je pourrais le dénoncer dans un article ou je pourrais essayer d'embrasser la quête vraiment, là, d'aller au bout de l'idée. On est en 2019 à l'époque, là, on a un paquet d'outils pour s'améliorer. Jusqu'où je peux aller si je mets toute mon énergie à devenir parfaite? Puis, donc, j'ai proposé cette idée-là à une boîte de production qui a dit, c'est parfait, est-ce que t'es gang d'essayer pendant 3 mois? Oui, c'est parti.
Et dans le premier épisode, qui est une espèce de présentation de la série, l'épisode zéro, en fait, qu'on appelle, rapidement, psychologue, historien, tout le monde t'a dit que tu vas foncer dans un mur. Est-ce que ça te faisait peur d'entendre ça dès le début du projet?
Non, je trouvais ça drôle parce que j'étais une insouciante qui vraiment comprenait pas ce que ça prêtait à faire. Première journée, tout le monde me dit tu vas t'enfoncer dans un gouffre, là, c'est pas le fun ce que tu t'apprêtes à faire, mais je prenais tout ça tellement à la légère que j'entendais pas vraiment l'avertissement. Je le prenais plus comme un défi. Comme, ah ouais, tu penses que je vais pas réussir puis que je vais sombrer dans la déprime, regarde-moi bien aller. Mais finalement, ces gens-là avaient parfaitement raison, là.
Il y a 4 grands thèmes à la série, l'intelligence, la sensualité, la spiritualité et l'organisation. Comment c'est arrivé d'abord ces 4 thèmes-là? Est-ce que c'était clair dès le départ que ça serait ça, les ondes?
Bien, moi, j'avais une liste de 10 qualités qu'on nous demande beaucoup d'embrasser là, à notre époque. Je les ai présentées à l'équipe, puis ensemble, on s'est entendu sur ces 4-là. C'est comme les 4 qui faisaient un consensus, là. On demande à tout le monde d'être plus intelligent, d'être toujours plus sexy, puis d'être évidemment spirituel et organisé. Je pense qu'il y a bien d'autres aspects qu'on aurait pu fouiner aussi. D'ailleurs, moi, je rêve de faire une autre saison avec d'autres défis, mais ceux-là, je pense qu'ils étaient particulièrement universels.
Tu as rencontré évidemment plein de spécialistes, plein de monde au cours de la série. Est-ce que ça a été enrichissant, ces rencontres-là?
Oh mon Dieu, tellement. C'est la plus belle partie, je pense, de la patente, là. C'est certainement pas comme moi, j'essaie de m'améliorer tout seul de mon bord. C'est vraiment de profiter de l'expertise de gens qui sont meilleurs que moi, et d'avoir droit à des neuropsychologues qui me disent comment m'améliorer, de où je pars aussi. C'est tellement intéressant. T'sais. Il existe plusieurs formes d'intelligence. Puis si moi, j'en maîtrise certaines, rencontrer des neuropsys puis faire des tests avec eux, ça m'a permis de comprendre que je suis parfaitement conne dans d'autres aspects de ma vie. Puis après ça, c'est pas vrai que tout peut s'améliorer. Puis à partir du jour où tu comprends ça, il y a un fardeau qui s'enlève de tes épaules, tu sais. J'aimerais que tout le monde ait la chance de consulter les experts que j'ai rencontrés dans cette série-là parce que ça leur permettrait de mieux se connaître puis aussi de savoir ce qui devient réaliste ou pas comme objectif à atteindre. C'est tellement enrichissant.
Évidemment, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup le côté beauté mis en avant un peu partout. Il y a des trucs partout de comment faire des pubs, évidemment, partout avec les influenceurs et tout ça. Il y a un épisode sur la sensualité où tu parles de tout ça. Est-ce que ça t'a fait peur de voir que cette génération-là n'a pas de limite presque en chirurgie?
Oui, un petit peu, en fait. Tu sais, je pense que encore aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, avoir recours aux interventions esthétiques, là, médico-esthétiques, dans notre tête, c'est comme une caricature. Hein. Donc, on imagine une personne, une femme, probablement dans la cinquantaine, qui commence à avoir du Botox, et puis là, on met trop, puis finit par avoir l'air, tu sais, d'une femme qui n'existe pas vraiment. T'sais, on a cette image-là.
Oui.
Mais la vérité, c'est que les soins médico-esthétiques, ils sont partout. Ça commence très jeune. Moi, la médecin qui me fait des injections dans les lèvres et ailleurs dans le visage, je me disais que ses premières clientes ont 18 ans. Et l'affaire, c'est que ça rien, c'est une caricature, là. Ça a l'air super naturel. Moi, personne ne remarquait mon Botox. Mais par contre, j'avais beaucoup plus de likes sur Internet. On me disait que j'avais l'air en forme, même si honnêtement, pendant les 3 mois de tournage, en fait, j'ai eu une sinusite chronique. J'ai jamais été aussi malade. Mais j'avais l'air pimpante, j'avais l'air fraîche, j'avais l'air plus jeune, mais je me ressemblais. Puis si on parle pas de cette réalité-là, soit le fait que plusieurs personnes qu'on voit à la télévision et ailleurs ont recours à ces soins-là, bien la pression qu'on se met, elle est inatteignable. Non, on peut pas se réveiller belle de même. Il y a des gens qui payent très cher pour avoir aux 4 à 6 mois des injections pour paraître parfait. Puis c'est important, ça peut relever d'un choix, mais c'est quand même important de se questionner sur les motivations de ces personnes-là, sur nos motivations, puis sur les systèmes qui nous invitent à payer pour avoir l'air plus jeune, parce que on a l'impression que c'est ce qu'on doit faire pour être adéquate. Puis c'est sûr que quand tu rentres là-dedans, ben là, ça te confronte à tes propres préjugés, à tes propres valeurs. Moi, ça n'a pas été un épisode facile à faire, là, d'avoir recours aux injections, vraiment pas.
Est-ce qu'il y a des bouts où tu as voulu reculer? Parce qu'évidemment, là, t'es allé vraiment au bout. Là, on parle de ça, mais il y a eu de l'hypnose, il y a eu plein d'affaires.
Non, parce que, tu sais, cette truc-là, c'est mon idée. Fait que c'est sûr que quand c'est ton bébé, tu veux le mener à bien.
Oui.
Puis pour aller au bout de l'expérience, je pouvais pas reculer devant ce qui me faisait peur ou ce qui entrait en contradiction avec mes valeurs. Parce que le but, c'est pas de me confronter moi, c'est de voir jusqu'où en tant que société on peut aller. Tu sais. Donc non, j'ai jamais eu envie de reculer, mais j'ai eu peur. Là, la veille des injections, je pleurais chez nous. Là,
OK.
Mais je me disais, il faut aller le tester. Puis ce qui m'a fait du bien aussi, c'est de rencontrer une sexologue dans le cadre de la série qui me disait, je comprends pas pourquoi tu as si peur d'aller de ce côté-là du spectre de la séduction. Elle me dit, tu sais, en tant que féministe, tu t'es déjà laissé pousser le poil pour voir qu'est-ce que ça faisait, tu sais, pourquoi tu n'es pas capable d'aller jouer du côté de ce qu'on attend de toi, mais tu es parfaitement capable d'embrasser les caractéristiques qu'on dit « Ah, qu'une femme ne devrait pas faire ça. » Pourquoi tu ne te donnes pas le droit d'aller jouer partout? Puis ça m'a vraiment rassurée. C'est « OK, je vais l'essayer, les injections, ça va durer 4 mois. Si j'aime pas ça, après, c'est terminé, mais j'ai le droit d'aller voir qu'est-ce que ça me fait, quel changement ça incite chez moi, quelle réflexion. » Fait que je suis arrivée en pleurant, mais remplie de courage.
Dans le dernier épisode, c'est le verdict final. Après les 3 mois, dès le début, tu dis qu'il y a une pression qui tombe de tes épaules. Comment tu les as vécues, ces 3 mois-là?
Au début, c'était le fun. Au milieu, c'était moins le fun. À la fin, c'était vraiment chiant.
OK.
Je dirais, là, trois...
Parce que c'est un autre régime de vie, carrément, là.
Bien, complètement. Tu sais, je ne mangeais plus les mêmes affaires. Il fallait que je fasse des activités complètement autres. J'en avais pour 2-3 heures de devoirs par jour qui s'ajoutaient à mon emploi à temps plein, tu sais. Puis au-delà de ça, au-delà de la fatigue qui s'accumule, il y a une fatigue mentale. Parce que dans le dernier épisode, on comprend que plus tu ajoutes des tâches à ton cerveau, plus il s'épuise parce qu'il vient un point de saturation. Tu peux pas apprendre à l'infini, pas à ce rythme-là, du moins. Donc, fatigue mentale, fatigue physique, puis au-delà de ça, quand tu es juste axé sur ta performance, comme le demande le perfectionnisme, ben, tu vires complètement égocentrique parce que tu regardes qu'est-ce que tu produis, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu réussis à faire ou pas. Fait que tu es dans l'auto-flagellation puis l'auto-observation constante. Fait qu'on vient à couper de ton entourage, à perdre intérêt envers les autres, puis tout ça... Et selon moi, l'inverse, la perfection, tu sais. Fait que tu t'aimes même plus. Tu t'améliores, mais tu t'aimes plus, puis tu vois plus les gens qui t'aiment. Il n'y a aucun intérêt.
Est-ce que d'ailleurs ton entourage a remarqué un changement marquant chez toi, justement?
Oui, bien, je tapais ses nerfs à mon chum un peu plus.
Okay.
Oui, définitivement. Mes amis me trouvaient fatiguée, moins disponible aussi. Je pense que j'ai déjà été plus là pour ma famille aussi. Tu sais, j'étais dans le jus, puis j'étais pas le fun. Oui.
Et tu parles de saison 2, donc ça veut dire que tu as une envie d'y retourner malgré tout?
Ah, oui, mais c'est parce que j'ai beaucoup réfléchi. Tu sais, devenir parfaite, là, dans la saison 1, on a vraiment pris que des aspects qui relevaient de mon implication mentale là,
ouais.
Et physique.
Ouais.
Par contre, pour devenir parfait, on peut aussi chercher à devenir plus riche, plus généreux. On peut rajeunir notre corps. Donc, je pense qu'il y a un paquet d'aspects que je pourrais exploiter qui ne me feraient pas sombrer dans un abysse mental. Des aspects qui me sortiraient de moi. Puis c'est là que je trouve que ça pourrait devenir intéressant. Parce que dans la saison 1, là, j'ai plongé au cœur de moi-même. Mais je pense que dans une saison 2, on peut aller faire des défis tout aussi intéressants et difficiles à atteindre, mais qui ne répondent pas que de moi, par exemple.
As-tu l'impression d'avoir changé comme personne ou t'es revenu exactement comme avant les 3 mois?
J'ai repris la majorité de mes bons plis et mauvais plis. Ce qui a changé, par contre, c'est une espèce de volonté d'équilibre qui était déjà un petit peu là au début de la série, mais à la fin, là, très fatiguée, c'est devenu un peu plus clair pour moi que c'est important de me reposer, c'est important de passer du temps avec les gens que j'aime, c'est important de redonner aussi, puis de pas juste être centrée sur moi-même. Puis, ce qui venait avec ça, c'est peut-être une plus grande facilité à questionner mes motivations. Quand j'ai envie de me lancer dans un projet, j'ai maintenant le réflexe de me demander pourquoi. Est-ce que c'est pour satisfaire quelqu'un d'autre ou si c'est parce que j'en ai réellement envie? Fait que je suis un peu plus dans l'introspection. Puis, tu sais, c'est un bon réflexe à développer, je pense, parce que le but de la série, c'est pas de dire que performer, c'est mal, puis que personne ne devrait avoir d'ambition, puis qu'on ne devrait pas chercher à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Je pense que l'objectif de la série, c'est de dire, il y a un paquet de systèmes qui nous en met beaucoup sur les épaules. Est-ce qu'on est capable de mettre le pied sur le frein et de se demander, j'ai pas envie de peser sur le gaz à fond ou pas? Puis après ça, la décision nous appartient. Mais je pense qu'il faut juste se demander qu'est-ce qui nous tente en ce moment.
J'ai l'impression que cette série-là arrive dans... Bien, évidemment, elle arrive dans une drôle de période, mais j'ai l'impression qu'elle arrive à un bon moment quand même.
Bien, au début, j'en doutais. Quand je voyais la date de diffusion approcher en plein confinement, je me disais « wow », tu sais, parce que la série, elle est drôle, là, elle a un ton humoristique. Le projet est rigoureux, mais moi, je ne le suis pas dans mon animation. Fait que là, je me disais « ok, on sort une série comique où j'essaie de devenir parfaite quand c'est la fin du monde telle qu'on le connaît. Ouais. » Mais finalement, est vite ressorti qu'on vit une pression de performance même en confinement. Tu sais. Ouais. Que les gens sentent une pression de tirer le meilleur de leur pause forcée, d'acquérir des nouvelles connaissances, de faire l'école à la maison, puis le pain à la maison, puis de travailler, puis de s'entraîner, puis de se mettre en forme et de prier. Tu sais. Donc, c'est comme si on n'avait pas le droit, même en pleine pandémie, de relâcher notre productivité. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, non, c'est un timing finalement qui est bénéfique parce que la série nous invite à se questionner sur nos motivations puis à voir que cette pression-là ne nous lâche pas, même quand le monde s'écroule.
J'ai l'impression que ça va faire du bien de voir ça. As-tu déjà des témoignages de gens qui disent « Ah, j'allais peut-être trop loin ».
Parler de témoignages, c'est vraiment fascinant. C'est la première fois que je fais un projet qui me suscite autant de confessions, je dirais. Les gens m'écrivent en privé sur les réseaux sociaux pour me partager leur rapport avec la pression de performance, ce par quoi ils sont passés pour essayer de s'en défaire un peu, jusqu'où ils sont allés pour plaire à autrui aussi. Fait que, ouais, vraiment, j'ai l'impression que ça remue beaucoup de choses, beaucoup plus que je le pensais, en fait. Moi, je pensais que le côté comique allait prendre le dessus sur le fond, mais pas en tout.
Tu as dit en entrevue à Radio-Canada que ton chat avait fait une crise d'anxiété.
Oui.
Est-ce que c'est vrai?
Oui. Oui, il est couché à côté de moi en ce moment.
Pour vrai?
Peut-être que tu l'as entendu crier au début.
OK, non.
Oui, mon chat fait une crise d'anxiété en début de confinement. Il agissait très, très bizarrement. Il m'apparaissait malade. Puis quand je suis allée voir la vétérinaire, elle a fait une batterie de tests. Elle a dit, ton chat est de nature anxieuse. Mais là, il est en pleine crise d'anxiété. Fait qu'elle dit, est-ce que t'es anxieuse en plein confinement? Parce que peut-être qu'il le sent. Ou alors, est-ce que t'es trop à la maison?
Ouais, c'est ça. Ils sont pas habitués, ouais, c'est ça.
Mais mon chat est très dépendant affectif, ça fait que c'est pas ça. Mais il est ancré, il est sur les calmants, là. Donc, je passe mon confinement un peu anxieuse avec un chat en crise d'anxiété à réfléchir à ma pression de performance. Si ça, c'est pas un beau contexte pour devenir une meilleure personne.
Ben oui.
Je sais pas qu'est-ce qui va m'aider à cheminer.
Et là, évidemment, t'es une créatrice, t'écris beaucoup. Est-ce que c'est une période, donc, de création, cette période de confinement-là, pour toi?
Et ça, c'est drôle parce que au début du confinement, je me suis lancée dans plein de projets, puis j'ai réalisé assez rapidement que c'était parce que je vivais très mal avec l'idée de ne pas être productive.
Encore la recherche de perfection.
toujours que j'essayais de performer. Donc là, j'ai un peu pesé sur le break. J'ai eu une espèce de mur là, émotif. Là, je pense à la semaine 5 où je ne sais pas bien. Puis depuis, ma créativité se fait vraiment aller, mais d'une manière qui est saine. Au début, c'était un échappatoire, je pense. C'est une façon de dire non, non, il n'y a rien qui change. Tout est pareil encore. Mais là, c'est plutôt... je pense que mon imagination a le temps de se laisser aller. Puis c'est ça, en ce moment, j'écris un livre, je réfléchis très fort à un autre, puis j'ai la chance de continuer à travailler moi-même. Donc, j'organise mon temps de manière à pouvoir gagner ma vie, ce qui est un privilège en ce moment,
ouais.
Mais aussi pouvoir laisser fleurir cette créativité-là qui vraiment là, s'est éveillée dans les dernières semaines.
T'as un livre qui est sorti d'ailleurs cette année.
Oui.
Donc, tu serais dans les salons du livre actuellement.
Oui.
Est-ce que ça te manque, cette période-là?
De Québec. Mais moi, je suis triste de manquer le Salon du livre de Québec parce que, un, c'est un privilège de pouvoir rencontrer les lecteurs et lectrices qui souhaitent partager leurs impressions. Vraiment, c'est un petit trésor relationnel. Mais en plus, à Québec, je devais faire une table ronde avec une autrice que j'aime beaucoup, beaucoup, Martha Lafontaine, qui a écrit Chienne. Puis j'espérais tellement pouvoir discuter avec elle. Puis c'est ça, tout ça s'écroule, mais il y a tellement pire. Je ne sais même pas
oui.
Ce qu'il y a, tu sais. Il y a tellement pire. Mais c'est sûr que oui, ça change les activités, ça c'est certain. Là.
Et Rosemée, je vais inviter les gens à aller voir ta série sur le Véro, donc l'extra de Tout TV. C'est là depuis 16 avril, on peut voir tous les épisodes. Et à aller se procurer ton livre, Il préférait les brûler.
Bien, merci.
Qui est ton plus récent,
bonne
ton plus
idée.
Récent livre.
Encouragez vos libraires.
Ben oui. Merci beaucoup pour le temps aujourd'hui.
Bien, ça me fait vraiment plaisir. Puis, tu sais, je veux juste ajouter que c'est une période difficile financièrement pour beaucoup de gens. Puis, tu sais, les livres sont disponibles gratuitement hein, sur les applications de location de livres des bibliothèques du Québec. Donc, n'hésitez pas à encourager les auteurs et autrices d'ici sans dépenser aussi si c'est plus facile.
Ben, merci.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.